Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
8h38, c'est notre revue de presse avec Aline François. Et dans les journaux ce matin, comment allez-vous bien, Aline ?
Les Français broient du noir. Dans tous les sondages, ils affichent inlassablement leur pessimisme, entretenu par la peur du chômage, du terrorisme et de la guerre. Et pourtant... Pourtant, le monde ne va pas de plus en plus mal. Au contraire même, les hommes n'ont jamais vécu aussi longtemps, aussi riches et aussi libres. C'est ce qu'affirme le Parisien Magazine qui explique ce matin pourquoi, en vrai, le monde va mieux. Le recul de la pauvreté, le ralentissement de la déforestation. En France, nos arbres s'étendent aujourd'hui sur 15 millions d'hectares. C'est le niveau du Moyen-Âge. Notre surface forestière augmente même de 50 000 hectares par an. C'est 5 fois la taille de Paris. Il y a aussi le très fort recul de la mortalité infantile dans le monde, la reconstitution de la couche d'ozone... Le psychologue Jacques Lecomte expose toutes ses raisons d'être optimiste dans un livre qui sort la semaine prochaine et il plaide pour une nouvelle façon de voir le monde. L'opti-réalisme. Association d'optimisme et de réalisme. Se dire que l'avenir est perdu conduit à l'immobilisme, dit-il. En étant opti-réaliste, on considère que des progrès ont déjà été faits et que les choses peuvent aller mieux à condition que chacun à son niveau retrousse ses manches. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, vous avez tout le week-end devant vous pour lire le nouveau numéro de Philosophie Magazine avec en couverture une question hautement philosophique. Peut-on aller bien dans un monde qui va mal ?
Autre question, peut-on aller bien quand on vit près de la route de la mort ?
Oui, c'est une route dont on a déjà beaucoup parlé. Elle fait régulièrement la une de la rubrique Faits divers, la RCEA, route Centre-Europe-Atlantique, une longue ligne droite qui traverse la France d'est en ouest, deux fois une voie. Tracée en 1954 sous l'impulsion des chambres de commerce de Bordeaux et de Genève, initialement pensée pour promouvoir le tourisme dans les régions traversées, ouvrir le littoral à l'Europe centrale, la RCEA aurait dû s'appeler la route des vacances ou la route de l'océan. Et c'est donc la route de la mort, empruntée chaque jour par des milliers de camions qui arrivent d'Europe de l'Est et veulent éviter les péages. Il faut lire le reportage que lui consacre le magazine Society, qui nous emmène non pas sur le bitume, mais aux côtés des pompiers, des gendarmes, des chauffeurs routiers, des maires de village et des parents de victimes de cette maudite route. Il y a notamment Michèle, une femme de 70 ans à qui la RCEA a tout pris. Son mari, Jean, le 9 décembre 1980. Son fils, Jean-Michel, le 21 novembre 2015. Tous les deux morts dans deux accidents de la route. Et puis il y a les pompiers. Tous sont allés, à un moment de leur carrière, sur la RCEA pour enlever un corps. On a connu des semaines à 7 ou 8 morts, raconte l'un d'eux. Pendant un temps, des silhouettes noires étaient plantées sur le bas-côté pour indiquer les lieux d'accidents mortels. On a fini par les retirer et il n'y avait plus que ça. Les pompiers, les habitants, les élus locaux, tous accusent le manque de volontarisme politique. La route a été modernisée par endroits, mais pas sur sa dernière partie, c'est-à-dire dans l'Allier et en Saône-et-Loire, où l'on appelle cette route la Nationale 79. Rien que pour l'Allier, il faudrait un demi-milliard d'euros pour un passage à quatre voies.
La politique maintenant, est-ce que tout va bien pour Emmanuel Macron ?
Mais quelle mouche l'a piqué, titre ce matin le Parisien Aujourd'hui en France, qui note qu'en 24 heures, Macron a pris le risque de se fâcher avec tout le monde, en qualifiant la colonisation de crime contre l'humanité, en défendant la manif pour tous. On est dans la zone de l'Everest où il y a les alpinistes chevronnés et les débutants qui enlèvent leur masque à oxygène, leur combinaison et se mettent à chanter. Macron est victime de l'ivresse des cimes, confie au journal infidèle de François Hollande. Colonisation, Macron provoque un tollé, titre aussi en une Le Figaro qui parle sous la plume d'Yves Tréhard d'amalgame inexcusable, ce qui n'empêche pas le journal de publier sur deux pages un long entretien avec l'intéressé dans lequel il déroule son programme en matière de sécurité. Et puis surtout, Emmanuel Macron fait aussi la une du Frankfurter Allgemeine Zeitung, journal conservateur de référence en Allemagne, qui consacre donc un portrait, mais surréaliste, au couple Macron. La France se languit d'un monde apaisé et a trouvé en Emmanuel Macron et sa femme ses protagonistes, écrit le journal. Ils incarnent tous les deux la mémoire vive d'une France autrefois confiante, ouverte, anarchique et généreuse. Et le journal décrit ainsi Brigitte Macron. Imaginez ce que serait la copine sympa de Jane Fonda. Elle rayonne d'une joie de vivre telle qu'on dirait qu'elle a passé les 40 dernières années à vivre et faire la fête à Saint-Tropez. Visiblement, le Frankfurter Allgemeine Zeitung a confondu avec une autre Brigitte de Saint-Tropez.
Justement, quittons Saint-Tropez et allons à l'usine.
Le bruit est assourdissant, mais on a des bouchons d'oreilles. Soudain, le long de la chaîne de fabrication, la salive se déverse par vagues dans le palais. On repère le produit en train de se faire mouler dans des coffrets en bois emplis d'amidon où leur forme est imprimée. Certes, elles ne sont encore qu'un sirop blanc, dûment aéré à coups de pression. Une mousse s'est créée à l'intérieur. D'autres, qui viennent de passer 48 heures dans un séchoir, déboulent dans un cylindre comme une bétonneuse. Elles sont de devenues solides et se font colorer pour devenir des beautés rouges. Nous ne sommes pas le long d'une chaîne de montage automobile, non. C'est la chaîne de fabrication des fraises Tagada de l'usine Haribo à Uzès, dans le Gard. Et c'est Libération qui nous emmène ce matin dans la machine à sucre qui va fêter dans quelques jours ses 50 ans. Le succès lui colle toujours aux dents, écrit Libé, un peu comme le Dragibus, où l'on apprend qu'il a été inventé en 1973 par un ingénieur qui, ça ne s'invente pas, s'appelait Gilbert Beck. À coup sûr un homme bon. On apprend aussi que Haribo a été créé en fait en Allemagne en 1920 par Hans Riegel à Bonn. Hans Riegel, Bonn, Haribo. On apprend aussi que c'est difficile de créer de nouveaux bonbons. Hein. Il faut plein d'ingénieurs, plein de réflexions. L'usine travaille en ce moment sur des bonbons vegan et aussi sur de nouvelles saveurs comme coriandre ou cannelle. En revanche, oubliez les bonbons sans sucre. Si on sait faire des bonbons qui ont du succès, c'est parce qu'il y a du sucre, disent les dirigeants. Quelques grammes dans un monde de brut. C'est une autre définition de l'opti-réalisme, en fait.
C'est tellement bon, les bonbons. Et la revue de presse...
Rendez-moi mes schtroumpfs.
Oui, rendez-moi mes petits schtroumpfs bleus. Et la revue de presse était signée, comme chaque jour, Adeline François.